88.4
Radio Galère.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'émission Psychodébat qui est c'est la 8e émission aujourd'hui. Et on vous rappelle qu'on est là tous les jeudis à 18h avec une rediffusion le mardi matin à 10h. Aujourd'hui, on parle vacances. Ça y est, c'est l'été. Certains partent, d'autres restent. Et si comme moi, certains bossent cet été, je me dis que c'est pas si mal de le faire dans une ville comme Marseille, où on peut aller à la mer direct après le boulot. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec pas mal de monde par rapport à d'habitude. Donc il y a Sarah qui a animé l'émission la semaine dernière.
Bonjour tout le monde.
Il y a Laura. Pardon, désolée. Oui, c'est bon.
Ah, là on m'entend ?
Oui, ça y est.
Parfait, bonjour tout le monde.
Et il y a Nada.
Bonjour.
Et enfin, Majib.
Salut.
Majid, pardon.
Majid.
Voilà, donc aujourd'hui c'est les vacances. Qu'est-ce qui se passe ? Pardon, désolée. Et pour introduire donc cette émission, je pensais commencer par vous poser la question. Ce à quoi vous pensez quand vous pensez au terme « vacances » ? Est-ce que, enfin, c'est quoi l'image ou la sensation que ça vous évoque? Pardon, j'ai oublié de mentionner Antoine qui est là aussi. Je suis désolée. J'étais tellement stressée, désolée. Et donc oui, la question c'est et quand vous pensez aux vacances, en fait, qu'est-ce que ça vous évoque comme sensation, comme image? Vous pouvez.
Moi, je pense au fait de m'évader en fait. Les vacances pour moi, ça me permet de m'évader.
Ok. Mais t'évader du coup de ton quotidien plutôt.
Ouais, exactement. De mon quotidien, de me déconnecter et de me reconnecter à moi-même et aux autres.
Ouais, ok. Super intéressant. Voilà.
Bah, je rejoins également Nada, ouais. Totalement de son avis. Un besoin d'évacuer de son quotidien et de vraiment, bah, oui, de prendre du temps à prendre pour soi et vraiment s'évader de son ouais. Train de vie quotidien, quoi, je pense. Je pense que tout le monde est d'accord. Enfin, je sais pas. En soi, si c'est vrai ou pas.
Mais je pense que ça enfin, je sais pas si d'autres personnes sont d'accord ou sont pas d'accord, mais je sais que c'est sûr qu'il y a la question de s'évader, mais peut-être aussi des fois c'est sortir d'une zone de confort ou se confronter à autre chose, je sais pas. Des
tout
fois
fait.
C'est justement rester, enfin aller plus loin dans un certain confort. Mm-hmm. Parce que vous êtes d'accord avec ça ou...
Tout à fait d'accord. Enfin, en soi, c'est vraiment... en soi, c'est un peu quitter une routine. En soi, enfin, c'est... Enfin, oui, le but de s'évader, quoi, je dirais. Donc en soi, c'est, ça peut être de base que, comme tu l'as dit, Angelina, de s'évader de sa zone de confort. Comme également aussi, bah, juste le fait de partir, être dépaysagé, on va dire. Enfin, je sais pas si ça se dit comme ça.
Dépaysé.
Excusez-moi, ouais. Quel lapsus. et de vraiment bah, être le fêté que d'être dans sa vie quotidienne, quoi.
Ouais.
Moi, je dirais que je me sens encore plus confortable en vacances, en vrai. Mmh. Et je prends le temps de faire des trucs que j'ai pas le temps de faire en général. Mmh. Et je m'accorde plus de liberté que dans le quotidien où il y a des horaires. Mmh. Et parfois, je m'impose des horaires aussi, même quand j'ai du temps libre, alors que je prends plus le temps de faire les choses, surtout quand je pars, que ce soit genre en France ou dans un pays étranger. Mmh.
Non, c'est vrai, je suis d'accord. Moi, j'ai plus tendance à partir en vacances et à faire des trucs justement, qui sortent de ma zone de confort, essayer d'aller faire des randos... ou je sais pas, visiter des endroits que je connais pas et qui me sont totalement, enfin vraiment pas familiers, quoi, pour essayer d'apprendre le plus possible. Et souvent mon quotidien en vacances, il est vachement plus intense que quand c'est mon quotidien hors vacances, quoi. Je me posais aussi la question, est-ce que vous avez envie d'aborder peut-être des vacances qui vous ont marqué que vous avez particulièrement aimé, et qu'est-ce que vous avez aimé dans ces vacances-là?
Bah, moi, quand je pense aux vacances, je pense surtout à ma jeunesse, en fait. Aux vacances avec la famille. Et étant d'origine marocaine, bah, je pense beaucoup à mes voyages réguliers au Maroc. Donc, je pense à tout un univers autour de ça, justement. Tout ce qu'il y avait autour du Maroc, le paysage, la culture. Donc ouais, ça revient beaucoup à l'époque antérieure, on va dire.
Ah ouais. Mais du coup, tu... enfin, les vacances, souvent, tu les passes à retourner au Maroc, encore aujourd'hui, ou est-ce que c'est...
Bah, plus souvent, malheureusement. C'est okay. Justement une habitude que j'aimerais reprendre. Mm. Et c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de nostalgie quand je pense aux vacances. Même si de temps en temps, je repars toujours dans des destinations plus proches. Mm. Mais pour moi, les vacances, c'est en tout cas mes premières vacances, celles-ci, sont celles qui résonnent le plus fort en moi, on va dire.
Ok, ouais, je comprends. Je comprends, ouais.
Moi, j'avoue que je différencie vacances et voyages.
Ouais. Mmh.
Pour moi, je les vois vraiment de deux manières différentes parce que pour moi, le voyage, en fait, c'est ce qui va me permettre de partir à l'aventure. Et pour moi, partir à l'aventure, c'est même au pas de ma porte, tu vois, c'est au bout de la rue. Ouais. Ça veut dire que parfois, je vais m'aventurer dans les quelques kilomètres qui entourent ma ville, parce que moi, je suis originaire de Strasbourg à la base. Mmh. Et j'aime le fait que dans chaque ville où je vais, en fait, m'aventurer dans cette ville-là, pour moi, c'est déjà un voyage. Et ensuite, les vacances, c'est plutôt quelque chose, par exemple, que je vais passer en famille, parce que je sais que je vais passer du temps avec ma famille, je sais que je vais passer du temps enfermé ou je sais pas comment, dans une bulle. Mmh. Et donc, c'est ce qui... Enfin, voilà, comment je les différencie. Il y a vraiment les vacances et le voyage. Donc, je sais pas de quoi tu veux qu'on parle exactement. Mmh. Si tu veux aborder les deux.
En soi, ouais, c'est un peu les deux. C'est ouais. aussi le but, mais c'est vrai que, oui, je rejoins ce que tu dis. Je trouve que c'est vrai qu'il y a vraiment cette distinction. Et il y a aussi le fait de rester, passer ses vacances chez soi, en fait. Ça peut être aussi très important et très intéressant pour nous, personnellement, pour notre développement. Puis des fois, ça peut être aussi évocateur, avoir un impact, plutôt représenter une frustration. Bon, ça rejoint un peu la même question que tout à l'heure, mais est-ce que vous avez, enfin, les vacances que vous avez eues qui vous ont marqué, elles vous ont laissé des marques qui ont encore un impact sur vous aujourd'hui? Donc, Magie, t'as un peu répondu à cette question, mais est-ce que vous avez ça un peu où il y a une expérience vraiment qui vous a marqué, où vous avez grandi, où vous avez eu un effet durable, quoi?
Moi, je dirais, enfin, c'est pour rebondir un peu sur ce que tu disais aussi, Nadja.
Nada.
Ouais. C'est vrai que moi, j'étais au chômage pendant... au chômage et en intérim. Du coup, c'est un peu particulier comme rythme de travail. Et pendant quasiment un an, au final, du coup, j'ai eu, on va dire, pendant les périodes de chômage, c'était du chômage choisi. Donc, j'étais en vacances, quoi, en gros. Et du coup, d'une certaine manière, je voyageais pas parce que dans l'intérim, je voyageais parce que je partais travailler en dehors de mon domicile en France. Du coup, d'une certaine manière, c'est un voyage aussi, mais j'allais pour le travail, je suis allé passer 2 semaines à Paris, 1 mois à Saint-Nazaire, enfin, ça dépend. Et j'étais en vacances, du coup, à Marseille, et c'est vrai que c'est cool parce que c'est une autre manière, du coup, d'appréhender la ville. On a beaucoup plus de temps pour se balader, découvrir des endroits, s'investir dans des associations, etc., des choses que... Avec le travail, on ne peut pas, mais est-ce que je me serais qualifié vraiment en vacances Je ne sais pas. Du coup, c'est vrai que je trouve la notion de différencier le voyage et les vacances. C'est... Enfin, ouais. On peut être en vacances en voyage ou juste en vacances à la maison aussi.
Et est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué quand t'as passé ces vacances ou ces voyages-là?
Quand j'étais en... À Marseille, en vrai, je suis arrivé à Marseille en octobre, je connaissais déjà parce que j'avais déjà vécu là. Et du coup, j'étais, on va dire, en vacances à Marseille. Et c'était super parce que je ne m'étais jamais autant investi. Parce que si je suis dans une colocation, on est nombreuses et il y a pas mal de gens qui sont investis. Du coup, c'était super d'arriver dans la ville et d'avoir autant de temps disponible pour découvrir des associations, découvrir des endroits sympas, aller se balader, s'investir, etc. Et je ne m'étais jamais investi autant et c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Du coup, c'était des vacances hyper... hyper occupé quoi au final, mais c'était que des choses qui me faisaient plaisir à faire et tout, donc c'était ça m'a marqué dans le sens, ça m'a fait grandir et ça m'a apporté pas mal de trucs au final.
Ouais, c'est sûr. Et justement, je sais pas si vous le savez, mais la France, c'est la première destination touristique du monde.
Ouais, je savais pas.
Ouais, vraiment, c'est assez impressionnant. Et justement, il y a 40% des Français qui préfèrent rester en France pour leurs vacances. Et 40% donc l'autre partie des Français qui, eux, préfèrent voyager. Et je voulais savoir, où est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous préférez rester en France, Ça veut pas dire rester là où vous vivez, mais vraiment, enfin, juste visiter la France, en fait.
Bah, tu sais quoi, si je peux me permettre, je vais faire un lien entre ta présente question et celle-là.
Ouais,
j'ai pas pu voyager énormément dans le monde. J'ai fait que 2-3 destinations internationales, tu vois.
Ouais.
Et donc, j'ai passé beaucoup de temps en France, surtout depuis le confinement, parce qu'on pouvait pas aller, j'avais pas mon vaccin. Donc, je pouvais pas aller ailleurs. Et donc, en fait, il y a des personnes que j'ai rencontrées. En fait, c'était la première fois de ma vie. Parce que moi, je suis aussi originaire du Maroc. Et donc, toutes mes vacances, tous mes voyages, je les faisais au Maroc. On n'avait qu'une vacance dans l'année, donc c'était là qu'on allait. Et en fait, là, j'ai enfin pu découvrir le sud de la France. Et genre, pour moi, c'était... Genre, vraiment, c'était une illumination, tu vois, c'était une révélation. Genre, je me disais, mais attends, genre, les gens, ils vivent comme ça. Genre, les gens, ils prennent le train, ils voient la mer. Les gens, ils sont dans le tram, ils voient la mer. Tu vois, et genre, quand tu viens du Nord, c'est très choquant pour toi. Et quand tu dois prendre un avion et que tu dois voyager pour voir ça, et que là, c'est... Genre, ça fait partie du quotidien des gens, c'est très perturbant. Et donc, grâce à ça, en fait, j'ai rencontré des personnes qui étaient hyper avenantes. C'est là, en fait, aussi où tu vois la différence dans les mentalités. Le voyage, ça te permet de voir vraiment d'autres façons de penser et comment est-ce que les gens t'abordent. Je trouve que c'est hyper intéressant. Ici, dans le sud, parce que j'ai fait vraiment pas mal de villes dans le sud, je vois à quel point les gens viennent vers toi. Un sourire peut enclencher toute une discussion.
C'est clair.
C'est, genre, vraiment, c'est extraordinaire. Et petite anecdote, il y a une femme, donc j'étais à Cap d'Agde, et au Cap d'Agde, et en fait, donc il n'y avait personne, parce que c'était l'hiver. Et je trouve que pour découvrir une ville, il vaut mieux y aller hors saison. Parce que c'est vraiment là où tu vois le charme et la beauté de la ville, tu vois.
Tout à fait.
Et donc, il y avait une roue que je prenais en photo. Et juste en dessous, il y avait un couple de personnes très, très âgées qui se tenaient par la main. Et je trouvais qu'ils étaient super beaux, tu vois, avec le coucher de soleil derrière. Et pour pas trop me faire cramer, bah, je suis restée devant la roue, même si le couple était parti, parce que je voulais pas qu'on sache que c'était eux que je prenne en photo, on sait jamais. Donc je suis restée un peu comme ça, et j'ai croisé le regard d'une dame qui faisait que me fixer. Une dame très âgée. Et je me suis dit, bah, quoi de mieux que de lui sourire, tu vois, parce que je savais pas trop ce qu'elle pensait de moi. Parce que ça se voyait que j'étais étrangère. Dans tous les sens du terme. Et donc je lui souris, tu vois, je lui lâche un big smile, et en fait, elle enclenche une discussion. Elle commence à parler avec moi et je vois qu'elle a vraiment envie de parler, qu'elle a vraiment envie de discuter, qu'elle sent peut-être un peu seule. Et on parle pendant peut-être 30-45 minutes. Et là, il y a son amie qui vient à bord d'une mobylette, aussi très âgée, mais genre très atypique, tu vois, avec plein de couleurs, maquillage et tout. Et là, elle lui dit, regarde qui je viens de rencontrer. C'est une petite jeune qui vient de Strasbourg. Elle est là toute seule, elle a du courage. Enfin, pour elle, c'était extraordinaire d'avoir traversé la France, tu vois. Pour nous, c'est rien, c'est une heure de vol. Et elle lui dit, t'as pas l'impression qu'elle ressemble à ma défunte sœur? Elle lui dit, quand je l'ai vue, qu'elle m'a souri, j'avais l'impression de voir ma sœur. Et on vient de deux mondes complètement différents. Enfin, vous me voyez du coup. Vraiment, deux mondes complètement différents. Et un sourire lui a permis de revoir sa sœur défunte. Et j'ai trouvé ça... Elle m'a fait chialer, quoi.
C'est dingue. Oh, franchement, c'est trop mignon.
Mais ouais, c'est sûr. On en parlait avec Sarah, d'ailleurs, que moi, depuis que je suis à Marseille, je trouve que le lien, enfin le rapport aux autres est tellement plus facile. Je rencontre des gens tous les jours et je parle des fois longtemps avec des inconnus et je me dis mais waouh, enfin genre ça aurait jamais pu être possible en Normandie d'où je viens, quoi. Enfin c'est j'ai jamais vécu ça ailleurs. Du coup ça c'est sûr que le sud, enfin même juste voyager, ça fait découvrir beaucoup de d'autres mentalités.
Sur la question justement de, enfin, que tu disais, il y a 40% des Français qui préfèrent partir à l'étranger, 40% qui préfèrent rester. En vrai, moi, là, les deux dernières années, je suis parti en voyage à l'étranger au Vietnam l'année dernière parce que j'allais rejoindre un ami qui habitait là-bas, et en Thaïlande cette année parce que j'allais rejoindre une amie qui habitait là-bas. Et au final, en vrai, de ces voyages, à chaque fois, j'en suis ressorti. C'était en même temps bien. J'ai passé un mois et demi en Thaïlande et deux semaines seulement au Vietnam. Et je me suis dit, ah, en même temps, c'était bien, j'ai pu découvrir et tout. Mais en même temps, c'est des destinations qui sont hyper touristiques.
Oui, tout à fait.
Et en plus, je ne parle pas du tout la langue. Mmh. Et du coup, j'étais un peu... Et puis, ça m'a coûté super cher d'aller là-bas parce qu'il faut prendre les billets d'avion après sur place. Ouais, tu connais personne. Du coup, tu te loges dans des auberges, dans des trucs, dans des machins et tout. Et... Mmh. Et au final, j'en suis ressorti un peu pas déçu, parce que j'ai quand même vu plein de choses super, et même si y a plein de côtés de ce voyage que j'ai pas du tout aimé, parce que le surtourisme et au final, je sais pas, j'avais l'impression de traîner que avec des touristes blancs qui venaient en voyage et puis faire le même trajet forcé de tout le monde. Et j'ai beaucoup voyagé en France par le travail ou en vacances ou en week-end, etc. Et c'est vrai que la France, c'est quand même, pour en avoir parlé aussi avec des gens qui viennent d'autres pays, et c'est vrai que la France, c'est quand même un des pays genre, où tu as une diversité de paysages. Mais c'est un truc de fou, quoi. Ouais. Quand tu prends de Strasbourg à Marseille, tu prends la Bretagne, tu as des paysages phénoménales. Tu vas sur la côte atlantique, sur le plateau des Mille Vaches. Même, je sais pas, tu vas n'importe où, on a plein de montagnes. Il y a tellement de choses à découvrir en France. C'est... Puis en Europe aussi, quoi, juste à côté, où au final. Puis c'est. Enfin, je sais pas. Moi, je me suis dit aussi, il y a potentiellement plus de personnes qui peuvent partager les mêmes. Enfin, pas partager les mêmes. C'est pas pour rencontrer que des gens qui partagent les mêmes points de vue, ou des gens de mon cercle social, etc. Mais c'est vrai que c'est peut-être plus facile aussi d'aller à des endroits où, genre, peut-être je connais un peu une pote en Italie ou quelqu'un là-bas et tout, et puis d'aller rencontrer des gens. D'univers différents et tout.
Mais surtout que même en France, je trouve qu'on a beaucoup de cultures qui sont différentes à travers toute la France. C'est même pas juste une question de paysage, c'est même culturellement parlant, il y a tellement de traditions et de trucs qui sont différents selon si tu vas en Bretagne ou si tu vas, à Marseille ou n'importe. Et ça, c'est vrai que c'est une grosse richesse. Et je comprends du coup pourquoi aussi beaucoup de Français préfèrent rester en France. Mais par contre, je sais aussi que la France est apparemment une des destinations les plus chères, genre la deuxième. Donc c'est aussi étonnant que beaucoup de monde vienne alors que c'est super cher de venir. C'est plus logique pour les Français de rester que les étrangers de venir, quoi, au niveau du tourisme.
Ouais, mais j'ai aussi l'impression qu'il y a aussi ce rêve de la France. Il y a tout un culte de venir en France, donc je pense qu'il y a des gens qui économisent pas mal d'années pour se dire...
C'est donc totalement ça. Et puis en plus, je pense qu'il n'y a pas le même tourisme en France qu'en Asie, par exemple. Tu ne viens pas chercher les mêmes choses forcément quand tu es en France. Et ça joue aussi beaucoup dans la perception des choses. Parfois, le fait que ça soit cher, au contraire, ça attire les gens parce qu'il y a le côté chic. Ouais. Et quand tu vas à Paris, tu t'attends peut-être à payer 3 fois le prix de ce que tu payes dans ta ville, dans un autre pays. Pour moi, ça me paraît... En fait, dans l'inconscient des gens, je pense que c'est admissible que tu payes plus cher pour quelque chose que tu trouves jamais ailleurs. Mais c'est vrai que par contre, nous, en tant que Français, on a ce côté-là un peu provincial. Je ne sais pas s'il y a des Parisiens autour de nous, mais moi, je suis de Grenoble. Donc déjà, ce n'est pas une ville très touristique de base, sauf l'hiver. Et encore, ce n'est pas Grenoble, c'est la région autour. Donc c'est vrai que ce côté cher, je le perçois. En fait, moi, je me dis, par exemple, ce que j'ai, c'est comme ce que disait Nada, ce que j'ai à côté de chez moi, ça me paraît... simple d'avoir, ça me paraît simple à avoir, comme moi en l'occurrence c'était les montagnes, mais je sais qu'il y a des gens qui sont prêts à payer des sommes astronomiques pour venir ici louer des chalets, et ça je m'en suis rendu compte vraiment avec le temps, et ça m'a vraiment étonné quoi en fait, parce que moi c'est quelque chose de gratuit en l'occurrence que j'avais à côté de chez moi quasiment, et ouais c'est fou en fait, c'est la perception des choses qui rend l'endroit attractif et pas forcément le prix je pense.
Ouais, et ça m'a fait penser à un truc, ce que tu disais par rapport au rapport au tourisme qu'il y a par exemple dans les pays plutôt équatoriaux ou les pays d'Afrique, les pays d'Amérique du Sud, etc. Peut-être qu'il y a aussi un truc de... Enfin, c'est vrai qu'on ne va pas chercher les mêmes choses quand on voyage en Europe ou quand on voyage dans ces pays-là. Après, je sais pas, peut-être je m'aventure dans un sujet, mais je me dis peut-être qu'il y a un côté aussi un peu néocolonialiste dans tout ça, où derrière, il y a une mentalité un peu de... je sais pas, on est moins prêt à payer plus pour avoir des expériences de dingue dans ces pays. Et par contre, quand c'est des pays européens ou des pays où il y a un peu ce truc chic, là, ça y va, quoi. Enfin, je sais pas.
Mais j'ai l'impression, tu sais, que c'est aussi la population qui alimente ça. Ouais. Parce que, en fait, la richesse culturelle, en réalité, il y en a partout, tu vois. L'architecture de dingue. Je pense qu'il y a des trucs qui sont beaucoup plus phénoménaux. Ailleurs qu'en France. Enfin, il y a des trucs qui sont époustouflants quand tu vas à l'étranger. Mais le truc, c'est qu'en France, c'est quand même alimenté, tu vois. Ouais. Quand tu vas à Paris, t'as les quais, t'as les gens qui sortent avec leur béret. Eux-mêmes, c'est une œuvre d'art, tu vois. Ouais, donc, je pense que le rapport. Parce que moi, je le vois aussi avec mon pays d'origine. C'est par exemple au Maroc, on a une architecture de fou, on a une richesse culturelle de fou. Rien que sortir dehors quand tu vas au souk, etc., au souk, c'est fou, tu vois, les odeurs, les couleurs, tout. Mais on va dire que en France, le fait de voir les gens hyper investis eux-mêmes dans la culture de leur propre pays, ça te donne aussi envie de la visiter, c'est vrai, tu vois. Au Maroc, par exemple, j'en connais peu ou pas beaucoup. En tout cas, moi, je parle dans mon entourage. Hein, je sais qu'il y a d'autres choses qui existent, qui vont aller au théâtre, qui vont aller au musée, qui vont aller visiter les quartiers, tu vois. Enfin, je sais pas. Je trouve que ça dépend aussi de la population, comment est-ce qu'elle va alimenter cette image et cette idée-là de son propre pays. En fait.
Mais justement, moi j'ai le référentiel, du coup, comme toi, un peu Antoine, quand t'es allé en Thaïlande, j'ai vu la même chose quand je suis allée en Thaïlande. Et en fait, ce qui m'a marqué, c'était vraiment que, du coup, il y a toute une partie de leur culture qui est un peu effacée, parce qu'ils vont mettre plus en avant ce que les touristes, souvent européens, aiment et ce qu'ils vont rechercher. Et du coup, c'est bizarre, je trouve, de visiter un pays où tu sens que tout est un peu formaté pour que ça te plaise. Et du coup, derrière, il y a un peu moins cette authenticité. Et ça, je sais pas, comment ça se produit et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'attachement et plus de revendication derrière cette culture qui est un peu pas mise en arrière, mais enfin voilà. Parce que c'est vrai qu'en France, quand nous, toute notre culture, on la met en avant et on l'assume et on est un peu revendicateur dans nos valeurs, etc. Et c'est pas forcément le cas de tous les pays. Je trouve que
après, si je peux me permettre de nuancer, je trouve que vu qu'on est français et c'est connu un peu, on a une réputation quand même. Les Français, on n'est pas très appréciés partout, quoi. Donc du coup, quand tu vas à l'étranger, en fait, tu viens avec ta mentalité française, tu vois. Donc toi, t'es français, t'as ton petit orgueil français, et tu vas là-bas et tu te dis, dès que tu vois un truc qui ressemble pas trop à la French Touch, tu vas penser que c'est plus tant de la même gamme ou c'est pas autant, tu vas pas autant le mettre en valeur, tu vois. Alors que, en réalité, c'est aussi une question de mentalité, d'ouverture d'esprit, d'accepter aussi la différence. Et en tant que français, j'ai l'impression qu'on a un peu du mal avec ça aussi, tu vois.
Oui, et du coup que ça influence les pays et comment ils vont, enfin pour les. Du coup, il n'y a pas que des touristes français, mais oui, c'est sûr que... De toute façon, c'est sûr que les Européens, je pense que... Vas-y.
Oui, je trouve qu'il y a une manière de s'imposer et de pas vouloir s'adapter totalement.
C'est ça.
Oui, de pas vouloir s'adapter totalement aux différentes coutumes des pays et différentes mœurs, etc. Moi, il y a un truc tout bête, quand j'étais allée en Asie, on était allé dans un petit restaurant. Ma pote parlait la langue, donc c'était un restaurant. À la base, quand il a vu qu'on était des touristes, il a dit non. Et quand elle s'est mise à parler, il a dit bon, ok, vous pouvez rentrer. Et quand il a parlé des épices, il m'a dit non, mais attention. Et j'étais là, non, mais ça va bien se passer. Et il m'a dit non, mais attention. Donc il y a tout un truc où il avait sa. Pour lui, il y avait une carte touriste et une carte non touriste, et on ne pouvait pas manger ce qui allait se. Bon, c'était extrêmement épicé. J'ai pleuré.
Donc il n'avait pas tort.
Mais c'était succulent. Et je ne regrette pas d'avoir mangé là. Et je sais que je n'aurais pas pu manger si je n'avais pas ma pote qui parlait la langue. Parce que c'était un endroit vraiment perdu dans une rue très éloignée où aucun touriste ne passait. Il y avait de repas pour les étudiants, etc. Et c'est l'un des meilleurs plats que j'ai mangé pendant ce voyage-là. Mais oui, il y a tout ce truc où tout est un peu calibré pour que les touristes se sentent à l'aise, pour qu'ils soient dépaysés, mais pas trop, qu'ils aient le confort de chez eux. Et donc aussi, il y avait ce truc de circuit où tout le monde va au même endroit quand on se retrouve dans un pays. Et parfois, tu cherches pas à aller au même endroit, mais tu te retrouves facilement dans les mêmes endroits que les gens. Voilà, parce que c'est les plus faciles d'accès, c'est aussi là où on va te guider. C'est là aussi où tu vas trouver les ressources de base, genre... alimenté, etc. Donc tu te retrouves facilement au même endroit. Et je sais pas quel rapport vous avez de croiser des Français quand vous êtes dans un pays qui est pas français. Moi, par exemple, le premier voyage que j'ai fait à l'extérieur de la France sans ma famille, c'est-à-dire parce que moi je suis comorienne, mais je suis pas allée souvent, ça coûte hyper cher. Mais c'était avec Laura au Portugal. Et on n'était pas allé en grosse saison. J'étais allée entre juste après mes partiels, j'avais pas encore les résultats.
Tout à fait.
C'était trop bien, parce qu'il y avait pas tant de touristes que ça, c'était vraiment mai, donc voilà. Et tout le monde nous regardait un peu en mode, mais qu'est-ce que vous faites là?
Clairement.
Et mais c'était trop cool. Et quand on a croisé des Français, on s'est dit, mais ils sont là eux aussi.
Ouais, c'est ça.
Mais ouais, non, c'était cool. Et ça a lancé plein de voyages que j'ai fait aussi autour de la France et en Europe. Et c'était différent. Parce que oui, c'est vrai que le voyage familial, moi, c'est très différent parce que je vais revoir ma famille. Il y a avoir une maison, j'ai une maison aussi là-bas, donc c'est différent. Grave. Je vais dans une maison qui est la mienne, même si je ne me sens pas forcément totalement chez moi. Mais il y a ce rapport différent quand je vais chez des amis dans des pays étrangers ou même en France. Et donc ça rend le voyage différent. Le micro est très bizarre, je ne sais pas si vous m'entendez normalement.
On t'entend parfaitement.
Mais, ouais. Mais c'est vrai que ça, je pense que ça fait un petit bruit derrière.
Ah oui. Du coup, moi, je voulais rebondir parce qu'en fait, tout le monde, du coup, parle de cette tendance à, comment dire, au pays, souvent, où les Français ou les Européens vont voyager. J'arrive pas à m'exprimer, désolée. On a dit qu'il y avait cette tendance où les pays qui accueillent les Européens vont avoir une façon de présenter leur culture, etc., qui va être un peu adaptée au goût des Européens, etc. Et du coup, je me demande pourquoi est-ce que les Français, les Européens, ils ont envie d'aller loin si au final, ils n'ont pas envie de se confronter à la réelle culture du pays qui les accueille, quoi. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est... Je sais pas, je trouve ça un peu, du coup, contradictoire.
Parce que tu sais, quand t'as envie de voyager, c'est parce que t'as envie de te dépayser aussi, tu vois. Mais donc, je pense que c'est une question d'ego. C'est-à-dire que c'est un travail sur soi déjà à faire, tu vois, une déconstruction. Si tu veux un paysage, il faut que tu t'adaptes aussi à ceux qui vivent dans ce décor.
Bah ouais, exactement.
Parce que c'est pas juste toi. Les gens ne font pas partie que d'un décor, ils font partie du monde, tu vois.
Bah ouais.
Et tu fais partie, le monde ça. Ne tourne pas autour de toi. Donc si tu acceptes ça, tu acceptes que les gens qui vivent dans ce paysage que tu as tellement envie de visiter aient une certaine personnalité, une identité. Oui. Et faut l'accepter, faut aller vers ça, faut tendre vers ça.
Mais du coup, c'est pas forcément le cas. Non, dans la réalité.
Combien de Français parlent français, même à l'autre bout du monde, ils s'attendent que le serveur parle français aussi. Genre le mec, tu vois, il est matriculé. Quoi.
Pas trop logique là.
Pour rebondir là-dessus aussi, genre sur le. Et puis pour le néocolonialisme dont tu parlais et tout, genre quand j'étais allé en Thaïlande, justement, j'étais allé rejoindre une pote qui était, bon, je pense que l'île est un peu connue à Koh Tao, hyper connue parce que là-bas, elle était prof de plongée pendant 8 mois. Et en fait, là-bas, du coup, à faire sur l'île, il n'y a que de la plongée. Vraiment, tout le monde qui passe en Thaïlande va sur l'île, j'ai l'impression, c'est hyper connu. Tu as 60 clubs de plongée. Sur les 60 clubs, tu en as un seul qui est tenu par des Thaïlandais.
Wow.
Et en gros, genre, déjà, elle était exploitée, genre, elle était sous-payée, exploitée vraiment. Elle travaillait tout le temps. Quand elle ne travaillait pas, on ne la prévenait pas. Enfin, c'était n'importe quoi. Elle travaillait pour un club français. Et je crois qu'elle m'avait expliqué un peu toute l'histoire, tout le délire autour de ça. Et en fait, tous les clubs sont obligés d'avoir une personne thaïlandaise qui travaille dans le club de plongée. Et du coup, en fait, c'est la personne qui tient le bateau. Mais sauf que cette personne, elle est exploitée aussi parce qu'elle tient le bateau, elle dort sur le bateau, elle vit sur le bateau. Et genre, enfin, c'est indécent, quoi. Et sur ce style, ça m'avait choqué justement à quel point les personnes qui tenaient les clubs de plongée, déjà, ils étaient hyper racistes envers tous les Thaïlandais. Wow. Il y avait beaucoup de personnes du Myanmar aussi. Et c'était hyper raciste de ouf. Genre, ils avaient des discours, mais c'était indécent. Et ils sont là, ils vivent en Thaïlande. Et en plus aussi, ils critiquaient de ouf, genre le système français, la France des profiteurs, etc. Et t'es en mode, mais en fait, t'es venu en Thaïlande, t'as ouvert ton club de plongée, tu profites, genre de tu vis sur le dos de je sais pas combien de personnes. Et en fait, cette île entière, c'était un entre-soi d'Européens, de Blancs qui venaient là. Et j'avais l'impression aussi que c'était un truc d'ego ou je sais pas, genre, ils se sentaient pas bien dans leur pays. Du coup, ils viennent ici où là, forcément, tout est plus facile quand t'as un peu d'argent et tu viens, t'es pépouze. Tout le monde devient prof de plongée en un mois. Du coup, il y en a, ils viennent pour une semaine. Et puis après, oh putain, je vais devenir prof de plongée. Oh là là, t'es seulement la 100 000e personne de la saison à devenir prof de plongée sur place. Enfin, vraiment, moi, j'avais trouvé ça indécent au possible. Quoi.
Puis du coup, pour le coup, on voit vraiment le rapport de force et d'inégalité entre les touristes qui viennent d'Europe et les locaux qui sont là et qui essayent de faire vivre leur économie avec le tourisme et qui, du coup, sacrifient beaucoup pour ça, quoi. Et c'est vrai que la Thaïlande, c'est un cas vraiment particulier parce qu'ils vivent exclusivement, enfin, en majorité de l'économie touristique. Et du coup, par exemple, pendant le Covid, et ça a été une crise énorme, ils n'arrivaient plus à se nourrir, c'était vraiment horrible. Parce qu'il n'y avait plus de touristes. Et je crois que ça a été remonté l'économie grâce aux touristes russes. Et du coup, maintenant, il y a beaucoup de Russes en Thaïlande. C'est une petite anecdote Ouais.
Mais tu vois, ce qui est marrant aussi, c'est qu'en France, on n'accepterait jamais ça.
Mais oui.
Tu vois, le truc de le client est roi, c'est pas vrai en France.
Non,
tu vois.
Non, pas du
au contraire, tu es là, tu te dis, mais attends, je suis le client, je viens, je consomme chez toi et tu me traites comme ça. Tu vois. Alors qu'en plus, on n'est même pas touriste. Donc imagine les touristes. J'en ai vu tellement se faire malmener. Genre dans les restos, dans des activités et tout, en France, genre les touristes sont pas forcément les bienvenus.
Et... Pas que des touristes d'ailleurs.
Ouais, voilà, pas que des touristes, tu vois, même nous. Genre.
C'est vrai.
Donc c'est, je sais pas, c'est très spécial. Je me demande pourquoi on est comme ça.
Mais pour moi, c'est quand même représentatif d'un certain privilège. On a le privilège de pouvoir conserver notre authenticité face à des touristes ou à un tourisme de masse, etc. Quoi. Bon, je pense qu'on va passer à la musique, à la pause musicale. Donc c'est Santana, Maria Maria. On va passer tout de suite. Alors, attends. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB. Get on the blues from the refugee camp. Maria Maria, she remind me of a West Side Story. Spanish Harlem. She living the life just like a movie star. Oh, Maria Maria. She fell in love in East LA to the sounds of the guitar. Yeah, yeah. Played by Carlos Santana. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just said, see you later. Chola, mama, chola, ahora vengo, mama, chola. East Coast, ahora vengo, mama, chola, mama, chola, ahora vengo. Maria, Maria. Spanish Harlem, oh, oh. She living the life just like a movie star. Oh, Maria, Maria, she fell in love in East LA. I said it to the sound of the guitar, yeah, yeah. Played by Carlos Santana. La favela, Boca Lourdes, the streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. North side. Maria, you know you're my lover. Et voilà, c'était la pause musicale. Du coup, Majid, si tu veux nous dire pourquoi tu as choisi cette chanson.
Bah, en fait, je voulais quelque chose qui me rappelle un peu mes voyages au Maroc. Et en fait, c'est pas une musique marocaine, mais ça me rappelle vraiment cette époque-là. Musique chaude avec des sonorités latino et latine, qui a été reprise par Rihanna après. Et en fait, je trouve que cette musique est sous-cotée dans le sens où beaucoup de gens l'ont découvert avec Rihanna, mais moi je la connaissais avant et quand je l'écoutais, personne ne remarquait en fait cette musique.
Ah ouais.
Et j'aimais bien la mettre moi quand j'étais petit dans ma voiture avec mes parents et tout. Et franchement, ouais, c'est une musique qui me rappelle l'été, qui me rappelle les vacances, la fête, la chaleur, que des choses en fait liées au mood actuel, on va dire, à Marseille.
Trop cool.
Je vous rappelle que on est sur la deuxième partie de la huitième émission de Psycho Débat et vous pouvez appeler au 04 91 08 28 10 pour participer en direct ou poser des questions.
Super. Donc je pense qu'on va continuer juste conclure un peu sur toute cette partie dont on a parlé de l'impact du tourisme sur les pays, etc. En abordant un peu la question de la responsabilité qu'on a en tant que touriste, nous, parce qu'on est tous un peu touristes à un moment donné dans notre année ou dans notre vie. Et comment est-ce que vous percevez justement la responsabilité du touriste, que ce soit dans des pays qui sont moins développés que dans des pays développés? Est-ce qu'il y a aussi peut-être un besoin, quand on voit par exemple Barcelone qui demande aux touristes d'arrêter de venir parce qu'ils ont des prix des loyers qui explosent à cause de Airbnb? Est-ce que ça peut être une réponse adéquate de boycotter en fait certains pays pour des raisons d'égalité sociale ou de droit, enfin de justice sociale au sein de ces pays-là? Qu'est-ce que vous en pensez?
Pour la question du boycott, j'avoue que je vais pas m'avancer sur ça, mais c'est plutôt la partie avant. Si on continue à voyager, moi j'ai l'impression qu'il faut y aller, tu sais, faut revoir ses intentions d'abord et faut y aller de manière vraiment sincère.
Ouais.
C'est-à-dire que en fait, plus que pour y passer des vacances, faut avoir envie de savoir qui sont ces gens qui y vivent. En fait, pour moi, t'as pas visité un endroit, t'as pas vraiment voyagé si quand tu en ressors, quand tu en repars, tu sais pas à peu près quelle est la situation économique. Ouais. De la ville ou du pays, quelle est la culture du peuple que t'as rencontré et visité. Donc c'est vraiment y aller, mais genre, tu sais, en profondeur, rencontrer les gens et parler avec eux, essayer de les comprendre, comment est-ce qu'ils vivent, etc. Genre, pour moi, c'est vraiment la base.
Ouais.
Et on n'y va pas tous avec ces intentions, tu vois. J'ai l'impression que si on y va comme ça, ça pourrait améliorer pas mal de choses.
Mais tout à fait d'accord avec toi, hein. En soi, c'est tout à fait ça. Enfin, moi... De base, le but d'un voyage, enfin vraiment, c'est vraiment de, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment de voyager, mais d'inspecter au niveau de la personne, enfin vraiment, enfin faire une, c'est un, comme un genre de voyage de soi, mais vraiment envers la personne et vraiment connaître l'inconnu. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment, je te rejoins complètement dans ton avis. C'est tout à fait ce même mantra et vraiment ce même mindset à se dire que vraiment, on a envie de connaître la personne et vraiment de découvrir vraiment sa culture. Pas vraiment, on va dire. Enfin, oui, en soi, les monuments, je suis d'accord, les sites historiques et tout, d'accord, mais vraiment, ouais, vraiment les locales, ouais, je suis tout à fait d'accord en soi.
Moi, j'ai mon père qui me pose souvent la question quand je reviens de voyage en me demandant qu'est-ce que j'ai appris. Il me demande pas ce que j'ai vu en général, ouais. Il me demande tout le temps ce que j'ai appris. Lui, il a beaucoup voyagé dans sa vie, donc je suis un peu inspirée. Ma mère, à chaque fois, elle me dit « copie un peu ça ». Mais et du coup, on a souvent des longues discussions et on parle des rencontres que j'ai faites. Et même parfois, quand je pars avec d'autres gens, récemment, je suis partie avec mes frères, parfois, je pars avec mes copines, parfois, je pars avec ma maman. Et il me demande aussi comment ça a affecté la relation que j'ai avec les gens. Parce que c'est vrai que voyager, c'est pas pareil que vivre dans la même maison, c'est toute une autre dynamique. Et je pense que tu avais une question un peu en rapport avec ça.
Oui, justement, ouais. Je voulais vous poser la question si vous ressentez qu'il y a un impact, qu'il soit négatif ou positif, en fait, quand vous partez justement avec des membres de votre famille, des amis, etc. Comment est-ce que voyager, ça impacte vos relations? Est-ce que ça apporte au conflit? Parce que des fois, c'est le cas. Hein. On a beau vouloir passer du temps ensemble et sortir un peu de notre environnement habituel. C'est pas. Non?
Moi, en soi, je vais parler parce que du coup, Sarah est là. Mais j'ai déjà voyagé plusieurs fois avec elle. Et c'est vrai qu'en soi, la relation, c'est vrai que je la vois sous un autre aspect. Mais c'est tout autant positif. parce qu'en soi, on s'est toujours... Enfin, moi, en soi, je la connais depuis le collège, mais vraiment, on s'est clairement habitué de par notre manière de vivre. Enfin, je sais pas comment dire, mais vraiment, c'est... ça a été tout à fait naturel. Enfin, chacun a sa manière de vivre dans un Airbnb ou autre. Enfin, hein, voilà, mais c'est vraiment... je sais pas, ça a beaucoup plus renforcé l'amitié. Parce que c'est là où tu... Enfin, pour moi, voyager, tu... t'es quand même en mode, tu dois t'adapter sur pas mal de choses.
Ouais.
Et vraiment, bah, non, franchement, mes voyages avec elle, ça a été vraiment fait des bonnes, des bonnes réussites.
Pour vous aussi, Antoine, Magie, ouais, Nada.
Bah, j'étais parti en vacances avec ma mère et mon frère. C'est un truc qu'on fait plus si souvent que ça, mais qu'on essaye de faire un peu de temps en temps. Et en vrai... je sais pas, à chaque fois qu'on part ensemble tous les trois, c'est vrai que c'est hyper cool parce que bah déjà mon frère c'est quelqu'un qui voyage énormément, on va dire. Après il en fait c'est pas vraiment qu'il voyage, lui il vit en camion ou en tente, ou là il travaille, du coup là il est au Portugal, après il va aller à Lyon, après il va aller en Belgique, enfin bref. Et du coup on se voit pas si souvent que ça, et pareil avec ma mère, on se voit pas si souvent que ça. Et du coup, c'est trop cool de d'être avec lui, et aussi d'être les deux enfants ensemble avec notre mère, de pouvoir passer du temps entre frères, avec notre mère, etc. Il y a plein de dynamiques du coup, qui se font. Quoi. Il y a des moments où on est juste nous deux, et je me souviens, on était allés aux Açores 2 semaines avant que je parte en Thaïlande, justement. C'était trop cool, on avait tellement profité, on avait fait pisser des vacances avec ma mère et mon frère, ça passe bien, et on veut faire les mêmes choses. Du coup, on avait grave profité des randonnées, des activités à découvrir, des choses naturelles, etc. Et puis avec mon frère, on avait fini par faire la fête, et on avait bien fait la fête ensemble. Ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas fait la fête comme ça, et dans un petit village sur les Açores, paumé, c'était... Enfin, un petit village, non, j'abuse, en vrai, c'était une ville en plus. Mais c'était trop bien, quoi. Il y avait plein de choses différentes, et ça nous a grave rapprochés. C'était un peu le regroupement familial. Hop.
Moi, comment dire ? En fait, j'ai l'impression, tu sais, qu'on vit dans une société, dans une ère où on vit tous entassés. Mais en même temps, on ne sait plus forcément vivre ensemble. Ça veut dire que le voyage, voyager avec des gens, c'est une opportunité pour moi de vivre avec des gens. Genre tellement, tu sais, on ne vit plus ensemble. Pour moi, ça me permet de vivre avec eux. Et donc, de travailler sur ma personne, d'être beaucoup plus bienveillant, d'être beaucoup plus généreuse. Parce que tu as l'impression que tu l'es dans ton quotidien, mais tu ne l'es pas vraiment. Parce que tu es solo, tu vois. Après, ça dépend si on vient encore chez nos parents, etc. Mais bref. Et donc, le voyage, ça te permet de vraiment travailler sur toi. Et ça peut très mal se passer, effectivement, si vous n'avez pas les mêmes intentions. Tu vois, ça part toujours de là, en fait. Est-ce que vous voyagez de la même manière ? Est-ce que vous avez la même vision ? Les mêmes envies ? J'ai déjà eu des voyages où ça ne s'est pas forcément bien passé, même si je l'ai gardé pour moi, j'avoue. Elles ne l'entendront pas, donc je le dis. ça s'est mal passé. Mais il y a d'autres voyages où c'était magnifique. C'était magnifique parce qu'on avait les mêmes intentions, tu vois. Mais ça dépend, quoi.
Ouais. Vas-y. Moi, pour rebondir aussi sur les différents aspects, je suis partie souvent avec mes potes, souvent avec Laura, mais avec d'autres aussi. Je suis restée un mois en Corée dans un studio très petit avec deux autres personnes. Et on s'est dit, est-ce que notre amitié va résister à cette épreuve ? Et à la fin du séjour, on était en mode, j'ai rien appris de nouveau. Il y avait des curseurs qui étaient un peu plus boostés que d'habitude. Mais on a été sincères dans notre amitié depuis le départ. Donc en vrai, je savais que ta personnalité ressemblait à... Enfin, genre, j'étais pas surprise de la personne que je découvrais. J'apprenais d'autres choses sur toi que je connaissais pas. Mais c'était pas des trucs qui étaient vraiment différents de la personne que t'avais montré. Donc on était là, ah, on a une amitié vraiment sincère, c'est cool. Et quand je suis partie avec mes frères, par contre, on choisit pas forcément sa famille. Mais j'aime beaucoup mes frères. Mais ils ont pas du tout la même manière de voyager. C'est-à-dire que j'ai mon petit frère qui, c'était son voyage d'anniversaire. Il aime découvrir, marcher au hasard dans la rue, découvrir un restaurant, s'arrêter, prendre en photo tous les animaux qu'il croise. Et il y a mon grand frère qui aime faire point A, point B, et avoir un itinéraire. Donc quand on lui disait on va où, et on dit on sait pas, il était en mode mais il faut trouver un endroit où aller. Donc c'était très drôle, mais on s'est super bien entendu au final, ça s'est bien passé. Mais c'était très drôle d'avoir les deux mentalités confrontées. Et moi je suis un peu au milieu, j'aime bien dire on va faire ça cette journée-là, mais si au final on va faire un détour de 3 heures pour aller là, ça me gêne pas. donc, parce que j'aime bien découvrir aussi.
Mais tu vois, ces cas-là, c'est soit ça passe, soit ça casse, en fait. Parce que vous pouvez très bien être très différent. Et au contraire, votre différence, vous allez en faire quelque chose de bien parce que vous avez envie que ça marche, tu vois. Donc, tu vas vraiment travailler sur toi et tu vas faire preuve d'empathie, de bienveillance et t'adapter. Parce que c'est vraiment ça, le vivre ensemble, en vrai. Hein. On ne se rend pas compte, mais ce n'est pas juste voyager avec des personnes qui nous ressemblent pour faire ce que nous, on veut, qui va dans nos intérêts, tu vois. Donc, voyager avec des personnes qui sont très différentes de nous, bah, soit ça passe parce que justement vous avez envie que ça passe, ou ça casse et vous n'allez plus jamais revoyager ensemble de votre vie, ça c'est mort quoi.
Oui, il y a un truc que j'ai remarqué récemment en voyageant en petit groupe, c'est que j'ai trop d'impatience quand on est en groupe et qu'il faut ramener tout le monde dans un élan de « ok, maintenant on sort ». Et ça, ça m'a été une énorme frustration pendant certains voyages. Pourtant, j'ai trop kiffé, j'ai grave profité et tout, mais à chaque fois, c'était le moment. Il est 10h du matin, on a des choses à faire, on va manger dehors, je sais pas, on va se balader. Et à chaque fois, c'est tellement fastidieux de prendre tout le monde. Alors qu'en soi, ça peut très bien se passer en temps normal, enfin... Pendant les vacances, quoi. C'est juste ce moment de prendre des décisions ensemble, en fait, et de donner l'impulsion. Ça, c'est un peu difficile. Je vais rappeler le numéro de téléphone, parce que ça va bientôt être la fin, et comme ça, si quelqu'un veut intervenir par téléphone, il sait que c'est maintenant. Donc, c'est le 04 91 08 28 10. Voilà, si vous voulez poser des questions ou intervenir, n'hésitez pas. Et je voulais aborder le sujet, parce que voilà, c'est bientôt la fin, donc il faut commencer à conclure, des réseaux sociaux et de l'impact sur le voyage et les vacances. Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé là, mais on est souvent exposé aux stories de nos potes, aux posts Insta de gens qu'on suit, de célébrités, n'importe quoi, d'influenceurs. Et alors déjà, j'avais une question, c'est pour vous, qu'est-ce qui apparaît le plus dans vos feeds? Est-ce que c'est des vacances en mode le luxe, le confort, piscine, soleil, vraiment genre pas sortir de sa zone de confort? Ou est-ce que c'est l'inverse, on vous incite à venir faire des randos, des trucs extrêmes, des, je sais pas, découvrir des pays et vraiment vous immerger, enfin vous immerser, être en immersion dans le pays que vous visitez? Genre c'est quoi le type de... d'influence que vous avez?
En fait, moi, je pense déjà que les algorithmes TikTok et Insta, parce qu'on parle souvent de ces réseaux-là, sont hyper malsains, dans le sens où, moi, souvent, les suggestions de voyage que j'ai, c'est durant les périodes d'examen, où, moment, en fait, j'ai besoin de partir.
C'est ça.
Là, actuellement, je suis plutôt bien. Enfin, il y a toujours des trucs comme ça. Peut-être que je les calcule moins après, hein, mais... en tout cas, je suis moins interpellé par ça, mais c'est vrai que durant l'année, quand il fait un peu moins beau dans le sud à Marseille, fois il fait moins beau à Marseille, c'est vrai que quand on voit des TikTok de voyage, ça, c'est quand même c'est assez frustrant, je dirais.
Ouais.
Et il y a autre chose aussi que j'aimerais dire, c'est je trouve qu'avec les réseaux sociaux, il y a quelque chose qu'on fait plus dans le voyage, c'est s'ennuyer.
Oui.
Et ça fait partie du voyage à la base, en tout cas, moi, comment je le conçois.
C'est vrai,
Il y a eu des moments, moi, dans ma jeunesse, où pendant un après-midi, j'étais chez moi, je faisais rien, en vacances, et ça faisait partie du voyage. C'était un souvenir du voyage, il y avait l'ennui, pendant une journée, on faisait rien. Et ça, maintenant, avec les réseaux sociaux, je crois que ça n'existe plus, en fait.
Ouais, c'est vrai.
Ben, je trouve que, tu vois, il y a deux aspects avec les réseaux. En tout cas, il y a deux choses que ça apporte. Premièrement, ça peut apporter, tu sais, en fait, il n'y a plus d'inconnus, finalement, tu vois, il n'y a plus... On ne découvre plus forcément grand-chose. Et en plus, parfois, c'est un peu biaisé aussi parce qu'on va prendre un très bon angle pour prendre en photo tel monument, etc. Une fois que tu arrives, tu es déçu parce que c'est bondé de monde et en fait, c'est moche. Et donc, d'un côté, il n'y a plus d'inconnus. En fait, tu découvres plus grand-chose. Mais de l'autre côté aussi, je trouve que les classes populaires, en fait, les personnes qui, à la base, n'avaient pas accès au voyage, ne savaient même pas comment on se rendait à l'autre bout du monde, ne savaient même pas qu'il y avait des bons plans qui existaient ou que c'était très abordable, tu vois. Ben, finalement, aujourd'hui, c'est comme si on était de nouveau remis à niveau, tu vois. Tout le monde repartait un peu sur les... Enfin, on ne va jamais vraiment repartir tous sur le même pied, mais en tout cas, ça se rééquilibre un peu plus.
Ça
quoi,
donne
tu vois.
Plus d'opportunités aux différentes classes sociales, etc. Ouais. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que vous postez beaucoup quand vous allez en vacances sur les réseaux ou est-ce que vous pouvez vous en passer, quoi, passer vos vacances et personne ne le sait?
Moi, j'avoue, j'ai plus de réseau social parce que ça m'a rendu fou. Je passais trop de temps dessus, quoi, et puis c'était un peu trop horrible. Mm-hmm. Mais du coup, ce que j'ai fait dans les dernières vacances, j'ai créé un groupe de potes sur WhatsApp et de genre de ma famille et tout, tu vois, j'étais en mode je vais donner des nouvelles à tout le monde parce que j'avais toujours envie de donner des nouvelles, d'envoyer photos et tout, mais enfin c'est pas la même chose que mettre des stories, je trouve, et tout, mais j'en mettais pas des masses, mais juste j'ai créé un petit groupe parce que j'étais en mode ah aujourd'hui j'ai fait ça, ou je faisais des petits récapitulatifs de mon voyage et tout, mais ça c'était cool en vrai, moi ça j'avais bien aimé le faire, mais ouais, les réseaux, j'avoue, j'ai plus.
Mais ça dépend aussi. Personnellement, j'ai un rapport au réseau aussi. J'essaie de m'en éloigner depuis de nombreuses années. Mais ça m'est arrivé aussi de partager des choses parce que j'y donne un sens. Enfin, ouais, j'y donne un sens. C'est-à-dire que, est-ce que je poste, est-ce que je montre ces moments de vie parce que j'ai envie d'y regarder où je suis et en gros, j'appelle au voyeurisme, quoi. Ou alors, je partage des choses parce que je trouve que c'est intéressant. Il y aura une anecdote que je vais raconter, ou alors que je vais même donner un itinéraire, tu vois, que je vais partager pour que les personnes qui veulent s'y rendre aussi, parce que des fois on te pose la question, il y a tellement de personnes qui te demandent où est-ce que c'était, comment t'as fait pour t'y rendre, etc. Donc là c'est utile, mais je vois pas trop d'intérêt à juste poster pour poster, tu vois, à part donner envie aux autres. C'est un peu malsain.
Moi je suis une personne assez maladroite, donc j'ai dû changer de téléphone pas mal de fois, et les anciennes stories ça me permettait de revoir des photos que j'aurais perdues autrement, donc ça, mais après j'ai aussi un compte très restreint où je poste justement un peu ce que j'ai envie. Et il y a tout un truc où je faisais un peu l'itinéraire de ce que je mangeais pendant tout le voyage. Et tout le monde suivait un peu et faisait des commentaires sur ce que je commandais. C'était très drôle. Mais ça, c'était dans un comité restreint. Et c'est vrai que dans mes réseaux un peu plus publics, parfois je poste un voyage que j'ai fait genre il y a un mois, deux mois, parce que j'aimais bien la photo et que je l'ai revue un mois plus tard. Mais je n'ai pas ce truc de l'instant où je dois montrer effectivement là tout de suite, je suis dans ce pays-là et je fais ce truc. Enfin, ça dépend vraiment du rapport de ce que j'ai, ou si c'est une anecdote drôle, ou si j'ai vraiment aimé ce coucher de soleil, je vais pas me dire ah mais ouais, il faut pas que ce soit du voyeurisme. Enfin, genre je me pose pas forcément tout le temps la question, mais je pense que c'est aussi parce que le truc du nombre, où je me rends pas compte aussi du nombre de personnes qui regardent. Enfin, c'est vrai que c'est difficile de se t'appuies sur un bouton et tu te rends compte qu'il y a autant de personnes qui voient.
Ouais, moi ça c'est un truc qui me stresse. C'est aussi En vrai, j'ai beaucoup quitté les réseaux. Là, j'ai repris un peu et en fait, ça a trop un impact négatif sur moi. Du coup, je sais que en fait, je fais un peu comme toi, Sarah, mais je suis pas sur les réseaux. Mais quand je fais un voyage et que j'ai un peu accumulé tous les petits moments de vie qui m'ont touché, les petits trucs sous forme de vidéos, etc. Bah là, j'aime bien faire un petit condensé. Et c'est, je sais pas, c'est une façon aussi de partager avec ma famille, parce que j'ai de la famille qui est un peu éclatée partout dans le monde, pour le coup. Et j'ai pas trop de moyens de communiquer toutes mes aventures avec eux autrement qu'en faisant des petites vidéos comme ça. Donc, je partage un peu cette façon de poster, etc.
En enlevant les réseaux, j'ai redécouvert le fait aussi d'envoyer des cartes postales. Et c'est vraiment un pur banger, en vrai. T'envoies les petites cartes postales, tu prends les trucs. Ouais, quand je partais en déplacement, j'envoyais genre une carte postale par ville où j'étais allé en déplacement. En vrai, c'est vrai que c'est trop chouette, quoi. C'est des petits trucs que tu peux redécouvrir. Et au final, il y a plein d'alternatives. Je trouve les réseaux, c'est toujours... Mais en vrai, c'est comme quand t'es dépendant. Enfin, c'est une addiction, au final, les réseaux. C'est vraiment un système addictif et tout. Mais c'est que, tu sais, comme quand t'es dans la dépendance, t'es en mode genre « Ah, mais je sais pas comment je pourrais faire sans. » Et jusqu'à ce que tu l'enlèves, où t'es en mode « Ah, mais en fait, y a plein d'options. » Et genre, par exemple, typiquement, contacter tous les membres de ta famille, tes amis et tout, tu prends WhatsApp et tu crées un groupe WhatsApp et t'as fait exactement la même chose que des stories. Tu leur dis, c'est pas un groupe pour parler, c'est juste un groupe, vous recevez mes photos, vous les regardez, vous faites un commentaire et voilà. Au final, t'as fait exactement la même chose. Et sinon, on voyait des cartes postales ou genre, quand j'étais parti en vacances, du coup, je faisais c'était un peu rude de m'y tenir, mais genre, j'écrivais tout ce que j'avais fait tous les jours et tout sur un journal. J'ai jamais relu, mais je sais pas, ça se trouve, un jour, je relirai. Puis ça permettait d'avoir une petite réflexion aussi sur genre, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime bien, qu'est-ce que j'aime pas. Qu'est-ce que j'ai vécu et tout.
On ressent tellement envie de partager des choses parce que justement, on ne les partage plus avec des gens dans la vraie vie, tu vois. Moi, j'ai aussi un truc, vraiment, ça me prend beaucoup. On vit très seul.
Bah ouais, c'est clair.
Tu vois, et ça veut dire qu'avant, je sais pas, à l'époque, par exemple, on allait voyager tous ensemble. Ça veut dire qu'on partageait tous les mêmes expériences. Tu n'avais pas forcément envie de le montrer et de le raconter, tu vois, parce qu'on partageait des souvenirs en commun. Aujourd'hui, Bah, c'est plus le cas, donc t'es obligé de balancer un truc sur les réseaux pour que quelqu'un veuille bien s'intéresser à toi. Tu vois, et rebondir et pouvoir en parler, tu vois. Sinon, ça, t'en ouais, parlera jamais. Sûr.
Je suis désolée, je vais devoir couper court un peu à la discussion parce que le temps presse. On va juste poser une dernière question pour conclure et juste soyez le plus bref possible. La question, c'est où est-ce que vous aimeriez avoir si... où est-ce que vous aimeriez aller si vous pouviez aller n'importe où, là, demain le voyage de vos rêves, quoi, qui vous fait rêver depuis longtemps, qui est sur votre bucket list.
J'avoue, c'est pas le voyage de mes rêves, mais la très forte envie d'aller en Andalousie.
Ok, c'est super l'Andalousie. J'ai adoré, moi, j'y suis allée.
Trop bien.
Ouais.
Je dirais le Japon. Ah très bref.
Non, j'avoue, c'est génial. Ok.
Très bref, mais Japon.
Moi, la Corée du Nord, du Sud. Chacun ses envies. La Corée du Sud, ça me tente okay. vraiment.
Ok.
Moi, je crois l'Angleterre. J'aurais fait un tour de l'Angleterre, Royaume-Uni, je ne sais jamais comment on appelle. Ouais. Ouais. Okay. Et l'Irlande avec. Hop.
Mm. Ouais, l'Irlande, ça a l'air incroyable.
Moi, deux trucs très différents. Le Japon aussi. Ouais. Et faire toutes les îles de l'océan Indien, parce que je suis allée aux Comores. Mm. Et je sais que... voilà.
Cool. Ok. Moi, alors, je sais pas trop en vrai. Ça a toujours été l'Islande. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été fascinée par l'Islande. Du coup, je vais dire l'Islande, mais ça peut être aussi le Népal. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup pour merci cette 8e édition de Psychodébat.
Ouais, merci.
Et puis, on se retrouve mardi, oubliez pas, à 10h pour la rediffusion, et jeudi prochain à 18h. Gros bisous. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Radio Galère.